juste in time for open mic.
Dans Le Point de Max, c'est l'heure de l'open mic avec Audrey Pinchot.
First time I tried an open mic, I knew.
11h03 minutes dans l'open mic à Boulevard 102. Ben, en fait, dans Le Point de Max, dans l'open mic, là, là, tout ça. Là. c'est parce que tu me déstabilises, Audrey. Il me semble que tu as quoi de changer sur toi.
Ben oui, il y a quelque chose de changé.
Mais c'est quoi? C'est
mes cheveux, mais personne n'a remarqué.
Ah, voilà, c'est ça. T'es rendue une petite brunette.
Oui, voilà. Je les ai foncis un peu. On essaie d'aller vers le
T'as foncé ça, hein?
Oui, ouais, j'ai
bon,
foncé ça.
Ça va.
Ça va.
Ben, c'est correct. Là, ça change rien. Tu sais, dans le sens, c'est correct. Là, ça va. Tu sais, c'est beau. T'es belle blonde et brune, là. Ben non, mais dans le sens, qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'es jolie, mais t'es jolie blonde aussi, là. Pourquoi tu me regardes? Dis quelque chose?
Je te laissais t'enfoncer.
Annie, j'ai besoin d'aide. Okay. J'ai-tu mal agi, là? J'ai-tu mal agi avec ma collègue, Annie Boilard, de Réseau Annie RH?
En fait, il n'y avait rien. Il n'y a pas de mauvaise ou de fausse. Mais disons que dans un esprit de prévention du harcèlement, c'est une bonne idée de juste pas commenter sur l'aspect physique d'une personne.
Bon, voilà. Ben, c'est pour ça que j'avais pas commenté.
Ouais, non, Annie n'avait pas remarqué, c'est surtout ça.
Fait que...
C'est beau, je vais le prendre
oui,
comme
Oui, c'est
ça.
Beau, Audrey, c'est beau, je fais des blagues.
Je suis contente de te voir.
Ben moi aussi, je suis content. Venez la voir sur Twitch d'ailleurs, Audrey, avec ses beaux cheveux bruns, là.
Hey, plus tu parles.
Ben, c'est pour ça que je vais arrêter.
Ça va. Je prends le contrôle, OK?
Vas-y, Audrey.
Ce matin, dans l'open mic, on jase, tu l'as dit, avec Annie Boilard, des réseaux Annie RH. Annie qui nous a parlé plusieurs fois dans les dernières semaines du monde du travail, du milieu du travail, que ce soit du volet employé-employeur. Et là, ben, je vous apprends rien, hein, 2025 tire à sa fin. Et au-delà de l'intelligence artificielle, duquel on a énormément jasé dans les derniers mois en milieu de travail, il y a une question qui se pose, c'est qu'est-ce qui a marqué le monde du travail cette année. Et Annie, tu m'as envoyé une couple de points que je trouve super intéressants. Entre autres, l'évolution du droit du travail. On parle du nombre élevé de grèves, il y en a eu énormément, des augmentations salariales moyennes, du taux de chômage et du retour en présentiel 3, 4, 5 jours par semaine dans les grandes organisations. J'ai comme envie qu'on fasse un tour, mais le point qui m'intéresse beaucoup, moi, c'est l'évolution du droit du travail. J'ai l'impression que souvent, comme employé, c'est-tu moi où on n'est pas tant au courant de nos droits?
Bien, à la fois les employés, parfois les gestionnaires, les entreprises aussi n'ont pas suivi tout ce qui s'est passé. Puis il y a des entreprises qui peuvent oublier là, certaines obligations qu'ils ont. Puis souvent, ce qui se passe, c'est qu'au courant de l'année, les législations sont adoptées. Puis là, bon, on parle d'une législation, puis après ça, on met ça de côté. Puis là, on parle d'une nouvelle. Mais en fin d'année, c'est le fun de faire un portrait global de l'ensemble de ce qui a bougé. Et là, on regarde toutes les lois, puis on fait... Ouf! C'est beaucoup! Et c'est souvent cette quantité-là qui explique qu'à la fois les employés ne sont pas au fait de tous les privilèges dont ils disposent, puis que certaines entreprises peuvent passer à côté de certaines obligations.
Ça a-tu...
C'est fun de regarder le global.
Oui, ouais, mais c'est-tu une année extraordinaire à ce niveau-là où ça bouge tout le temps beaucoup, puis il y a beaucoup de changements de loi, puis ça, où on est vraiment juste dans une année où ça a beaucoup bougé?
Bon, on va s'entendre, c'est notre législateur qui fait évoluer nos lois. Donc, en fonction des gouvernements, de notre législateur, les choses évoluent. Habituellement, il y a quand même plusieurs lois qui bougent dans le monde du travail dans une année. Et ça, c'est normal. Là, il y a des choses qui sont spécifiques à 2025. D'abord, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu des lois qui venaient encadrer les pouvoirs des syndicats. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé, qu'on n'avait pas revu le code du travail, tout ce qui a trait à ce qu'on appelle la paix ou les enjeux industriels, donc reliés aux négociations avec les syndicats. Donc, ça, c'était spécifique en 2025. Puis aussi, 2025, on a eu à la fois de nouvelles dispositions légales, mais beaucoup d'anciennes lois, puis anciennes dans le sens 2023-2024, 2022 aussi, mais qui avaient des dispositions qui rentraient en vigueur jusqu'en 2025. Mmh. Alors ça fait beaucoup de choses qui bougent en même temps.
Bien, je propose, Annie, qu'on les prenne une par une, parce que tu me les as envoyées, il y en a 8 dont on va parler. Puis moi, il y en a plein là-dedans, même en travaillant dans les médias, puis en étant au courant, que je me dis, comme voyons, c'est quoi ça déjà? Comment ça se traduit? Fait, commençons par la loi 27. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça change exactement au day-to-day pour les travailleurs?
Alors, la loi 27, c'est une des grosses lois 2025. En fait, c'est une loi adoptée en 2022 dont les dispositions en lien avec les risques psychosociaux et la santé psychique des employés venaient à échéance. Donc, à partir de octobre 2025, toutes les entreprises devaient se conformer pleinement à la législation. Et quant à Audrey, tu parlais de la législation qui protège les employés, mais celle-là, c'en est une d'entre elles. Parce qu'on se souviendra, notre législateur est venu insérer tout ce qui a trait notre loi sur la santé et sécurité au travail, hein, protégeait très bien notre santé physique des employés. Puis la mise à jour de cette loi-là, ce qu'on a appelé
Mental.
la modernisation de la loi sur la santé et sécurité, est venue insérer tout ce qui a trait à la santé mentale, la santé psychique, la santé psychologique. On peut l'appeler de différentes façons. Alors, il y a beaucoup là-dedans. Là, donc, tu me demandais qu'est-ce que ça fait pour les employés. Il y avait plus de 230 articles de loi qui ont été modifiés. Donc, je pourrais t'en parler pendant longtemps, mais en gros, ce que ça fait, c'est que l'employeur est obligé maintenant de considérer les risques psychiques de l'employé. Ça veut donc dire concrètement, par exemple, pour les comités santé-sécurité au travail dans les organisations, bien non seulement maintenant ils s'intéressent à la sécurité physique, mais ils doivent poser ces questions-là. Ça va ouvrir la conversation sur des questions en lien avec, par exemple, la charge de travail, en lien avec le support du gestionnaire, la reconnaissance qui est reçue par les employés, le support des pairs. Plusieurs risques psychosociaux qui sont dictés par d'autres institutions, là, mais ça vient ouvrir cette conversation-là et considérer que l'employeur a des obligations de protéger les employés par rapport à ça.
De quelle façon un employeur peut protéger la santé mentale de ses employés? Parce que c'est quand même, c'est précis, là, c'est propre à chacun aussi. On n'a pas toutes nos...
C'est un peu abstrait
Ben
dans
oui,
un
on n'a pas
sens.
les mêmes limites, là.
Oui, absolument. C'est bien dit, Audrey. Puis il faut dire que dans le cadre de notre conversation, on prend un peu des raccourcis quand on dit ça, mais la responsabilité de l'employé, c'est de réduire, de l'employeur, pardonne-moi, c'est de réduire les risques reliés à la santé psychique des employeurs. Donc, l'employeur n'est pas, entre guillemets, responsable de la santé mentale de tous ses employés, mais il est responsable de réduire les risques à la base en lien avec la santé psychique. C'est ça. Ce recadrement-là, parfois, nous donne un autre angle qui nous permet de mieux comprendre.
Puis on a quoi comme employé, comme recours? Dans le fond, c'est des congés santé mentale qu'on peut prendre?
L'employé, ben d'abord, son premier, sans même penser à des recours dans le sens s'il y a un enjeu avec l'employeur, mais il y a d'abord une voie de communication qui s'ouvre avec son comité santé et sécurité au travail. Hein? Des fois, il y a des choses qui ont été ignorées, qui n'ont pas été abordées, mais ça ne veut pas dire que c'est de la mauvaise foi de personne. Mais des fois, personne n'a posé la question: comment ça va ta charge de travail ces temps-ci? Comment ça se passe pour toi? Donc là, l'employé a la possibilité d'aller voir son gestionnaire pour en parler, d'en parler à son comité de santé et sécurité au travail qui va avoir l'obligation de prendre cette considération-là. Puis là, bien, après ça, généralement, le comité va faire évoluer la question, puis l'entreprise va s'adapter. Mais si jamais quelqu'un faisait la sourde oreille, là, il y a des recours pour l'employé auprès des ressources humaines et auprès de la CNES.
Ça enlève un peu le tabou, là, on va le dire comme ça.
Oui, absolument.
Loi 14, ensuite.
Hey, on en a beaucoup parlé. Il y a deux lois qui concernent, ben, une loi puis un projet de loi qui concerne les syndicats cette année. La loi 14 sur les services essentiels pour venir considérer l'impact sur la population. Et sa petite sœur, c'est le projet de loi 3, dont on a aussi beaucoup parlé récemment, qui est en lien avec la transparence syndicale. Alors, les gens qui sont touchés dans ces projets, dans cette loi et ce projet de loi, d'abord la population, les citoyens, ils ont des impacts négatifs quand il y a un conflit de travail, notamment une grève ou un lockout. Et les autres employés qui sont touchés par ça, ce sont les employés syndiqués, parce que maintenant, bon, c'est beaucoup, là, on a beaucoup parlé, ils vont pouvoir, possiblement, si le projet de loi 3 est adopté, choisir s'ils veulent supporter des quêtes de leurs syndicats qui sont à l'extérieur des besoins de la vie syndicale, mais aussi des choses qu'on a peu parlé, un délai de 24 heures pour enregistrer leur vote pour des décisions importantes comme un vote de grève. Alors, ça a l'air simple, Audrey, je dis ça à ton micro comme ça, là. Mais pendant longtemps, les votes de grève pouvaient se prendre à la fin de très, très longues rencontres avec les représentants syndicaux et les employés. Puis parfois, il y a des employés qui se tannaient puis qui quittaient. Fait qu'il restait juste les gros militants là, pour voter à la toute fin. T'sais, un exemple concret, quand il y a eu la grève des professeurs il y a 2 ans, ben, il y a des votes de grève qui se sont pris passé minuit. Mais tu sais, pour un prof là, qui enseigne le lendemain matin, passé minuit, c'est pas facile.
Non.
Alors là, ce que ça vient donner, ça vient octroyer aux syndiqués 24 heures pour enregistrer leur vote. de grève ou pas de grève, mais peu importe leur vote, mais ça fait partie des bénéfices que pour les employés. Donc, c'est les syndiqués ici là, qui sont touchés dans cette loi-là.
Annie, on poursuit avec la loi 68. Ça, c'était pour venir simplifier la tâche des médecins, là. C'était un peu le but, mais ça a un impact aussi sur des employés en termes de en lien avec les fameux papiers de médecin que tu dois présenter des fois à tes boss.
Absolument. Ça, c'est une loi votée en 2024, applicable à partir du 1er janvier 2025. On est venu revoir les conditions dans lesquelles les employeurs peuvent demander des justifications médicales pour justifier une absence, que ce soit une absence maladie ou une absence familiale. Et là, ça a changé beaucoup, beaucoup de choses. La première chose, c'est que vous connaissez l'ancienne règle. Beaucoup d'entreprises avant utilisaient la règle du 3 jours. À partir du troisième journée d'absence consécutive, l'employé devait arriver avec un billet du médecin. Et là, vous et moi savons que c'est drôlement pas facile d'aller chercher un billet du médecin
Seigneur.
ces jours-ci, puis en plus quand on est malade. Alors là, le législateur a permis aux employés de s'absenter sans avoir à soumettre de billet de médecin pour les deux situations suivantes. Donc, la première chose, c'est pendant 3 absences de 3 jours consécutifs. Donc, le billet de médecin peut être demandé à partir de la quatrième absence, série d'absences, ou encore à partir de la quatrième journée consécutive d'absence. Mais la règle la troisième journée, là, ça, c'est l'ancien temps. Là, les entreprises ne peuvent plus faire ça. Tout comme les entreprises ne peuvent plus demander un billet médical pour justifier une absence familiale. L'employeur peut demander différents types de justifications, comme un billet de stationnement, un coupon de caisse de la pharmacie, un billet signé par le réceptionniste, dans une clinique médicale, mais pas par un médecin. Donc, ça vient enlever de la pression sur les épaules des employés, mais en contrepartie, je vous dirais, combiné avec le projet de loi 101, ça, on dirait qu'on parle des langues, mais non, ici, je parle de la loi pour améliorer les conditions, les lois du travail, mais en gros, combinés ensemble, c'est que je peux vous dire, il n'aura jamais été plus facile de s'absenter du travail au Québec qu'à partir de 2025.
Bonne affaire. Parlons-en justement du projet de loi 101, Annie.
Alors, ça, c'est un projet qui est passé sous le radar, puis en gros, c'est un petit le projet de loi. Il vient toucher quelques lois comme ça. Mais un des éléments les plus importants à mon égard, c'est qu'on est venu protéger les employés lorsque la santé publique va prendre des décisions et peut justifier une absence. Donc là, ce que ça vient dire, c'est que l'employé va pouvoir maintenir son lien d'emploi s'il y a une absence qui est dictée par la santé publique. Et ça ne peut pas y avoir d'expiration de date, de durée de temps maximum ici.
C'est
Donc,
intéressant
c'est une
ça.
absence non rémunérée. La personne n'est pas payée pendant cette période-là, mais quand même, elle va pouvoir maintenir son lien d'emploi. Et on dirait que ça tombe un peu sous le sens parce que, évidemment, si la santé publique dicte quelque chose, mais on protège tout le monde quand les gens respectent les règles. Donc, quelqu'un qui pense qu'il pourrait perdre son emploi parce qu'il s'absente de son travail aura moins tendance à corroborer avec les directives de santé publique. Fait que tout ça fait beaucoup de sens.
Il y a aussi eu des changements, Annie, pour ce qui est de l'utilisation du français au travail.
Oui, une loi votée en 2022 pour laquelle les entreprises avaient jusqu'en 2025 pour se conformer, juin 2025. Ça, c'était un gros chantier pour les organisations. Bon, nous, à Québec, souvent, ça se passe en français, fait que ça a moins d'impact, mais des entreprises, par exemple, plus anglophones qu'on retrouve parfois à Montréal, ça a vraiment une incidence significative. Ça avait une incidence d'abord sur, pour ce qui est du recrutement. Les entreprises qui voulaient recruter des gens qui parlaient l'anglais, soit uniquement ou qui étaient bilingues, ça venait changer les conditions dans lesquelles ils pouvaient le faire. Ça imposait à l'entreprise de valider on avait vraiment besoin de l'anglais, s'il y avait d'autres personnes dans l'organisation qui pouvaient pallier le besoin avant de pouvoir exiger une personne bilingue dans un niveau du recrutement. Donc, c'est venu changer au niveau des affichages, des justifications qui étaient proposées. Il y a dans cette loi-là aussi d'autres éléments comme le fait que lorsqu'on reçoit nos documents d'employés, par exemple notre contrat d'emploi, ben, si on veut l'avoir en anglais, c'est correct, mais on va l'avoir en même temps en français. On ne peut pas se soustraire de cette obligation. Donc, c'est beaucoup pour les employés francophones qui œuvraient dans un contexte, disons, bilingue ou plus anglophone. Ça vient leur octroyer une meilleure protection pour la langue d'utilisation du français au travail.
Annie, j'ai envie qu'on termine avec les deux restantes, soit la loi 25 et la loi 4. En passant, si vous venez de vous joindre, on parle avec Annie Boilard, d'Annie RH, sur l'évolution du droit du travail en 2025, ce qui a changé pour vous, entre autres employés et employeurs. Donc, vous allez retrouver ça sur le blvd.fm. La loi 25.
Donc, notre projet de loi 25 est venu donner des dispositions sur les informations personnelles. Comment l'employeur allait protéger les informations personnelles de l'ensemble, là, ça pouvait être de ses fournisseurs, mais notamment de ses employés. Ça aussi, c'est une législation qui avait été adoptée dans le passé, mais dans les périodes allait jusqu'en 2025. Donc, ce que ça donne aux employés maintenant, c'est une meilleure protection de leurs informations personnelles et aussi la capacité de consulter leur dossier pour leurs informations personnelles également. Ils peuvent en faire la demande auprès de leurs employeurs. Et pour ce qui est l'autre que tu mentionnais, la loi 4, alors ça, c'est une loi, je veux dire, ça a une incidence plus micro. C'est un changement à l'article 7 de la loi sur la régie des rentes du Québec. Puis je te dis ça comme ça, mais le nom exact de la loi, c'est pas exactement ça, là. C'est la loi sur le régime de rente du Québec. Et ce que ça vient faire, c'est pour les travailleurs étrangers. Dans quelles conditions les travailleurs étrangers vont pouvoir cotiser à la Régie des rentes du Québec et dans quelles conditions les employeurs ont l'obligation à la fois de recueillir la contribution de l'employé et de faire la contribution de l'employeur.
Annie, peut-être que ça vaudrait la peine, début 2026, de se faire les prévisions de ce qui s'en vient dans le monde du travail, dans le milieu du travail. Que ce soit le retour en présentiel, ça fait beaucoup jaser, les augmentations salariales, je pense qu'on a encore beaucoup de sujets à traiter ensemble.
On a beaucoup de sujets, absolument. Est-ce que tu veux que je t'en parle tout de suite?
Non, ben en fait, écoute, on va remettre ça en 2026. On a le PM qui est venu nous voir ce matin. Je sais que Max veut faire rejouer des bouts de l'entrevue qu'on a eue avec M. Legault. Fait que je vais te souhaiter un beau temps des fêtes, puis je vais te remercier d'avoir pris le temps ce matin.
Ça fait très plaisir. Bonne journée à vous deux.
Salut,
Salut,
Annie.
Annie Boilard, présidente du réseau Annie RH. Au retour, Audrey le mentionnait, on a eu la chance de recevoir dans nos studios ce matin le premier ministre du Québec, François Legault. Plusieurs sujets au menu, évidemment. C'est une vingtaine de minutes qu'on a passées avec le premier ministre et pas mal tout y est passé. Il est allé loin, notamment sur ce qui est du Mont Sainte-Anne, l'expropriation possible de Resorts of the Canadian Rockies, RCR. On a bien sûr parlé de souveraineté du Québec parce que j'étais dans le studio, c'était sûr que j'allais avoir des petites questions à ce niveau-là. Négociation avec les médecins, itinérance, relation avec le fédéral, relation avec Bruno Marchand, troisième lien, tout y est passé. Puis je vous fais entendre ça au retour. Vous écoutez le Point de Max à Boulevard, il est 11h20.
Le Point de Max.